Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie proposé par MAF.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'épargne et à l'investissement. Aujourd'hui, nous recevons Michaël Joussaume, responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction Assurance Vie. En compagnie de notre invité, nous traiterons des bonnes pratiques d'investissement en assurance vie à adopter pour s'adapter aux évolutions de l'environnement économique. Nous parlerons notamment d'inflation, de désinflation, ainsi que des impacts que ces phénomènes ont sur notre vie quotidienne et plus particulièrement sur notre épargne. Alors, pourquoi faut-il tenir compte de ces événements ? Comment réagir lorsque l'économie et les marchés financiers sont chahutés ? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons Michaël Joussaume. Bonjour Michaël.
Bonjour Fabrice.
Dans cette première partie dans laquelle nous allons nous intéresser à l'inflation, je vous demanderai de nous expliquer simplement ce qu'est l'inflation et comment cela se traduit dans la vie de tous les jours.
Compte tenu de la période actuelle, je pense que tout le monde a maintenant entendu parler de l'inflation. Nous n'entrerons donc pas dans une longue définition, disons simplement que l'inflation se traduit par une augmentation généralisée des prix. Globalement, l'inflation représente donc une perte du pouvoir d'achat, dont l'effet est très concret pour le consommateur qui voit les prix augmenter. Pour l'épargnant, les effets de l'inflation sont plus sournois, puisqu'ils ne se mesurent pas au quotidien, mais on peut là aussi évoquer une perte du pouvoir d'achat de l'épargne. Ainsi, les biens ou services que l'épargnant peut acheter aujourd'hui avec ses économies sont supérieurs à ce qu'il pourrait acheter demain. C'est exactement le phénomène de l'inflation. Enfin, je rappellerai que l'inflation est un phénomène globalement positif, jusqu'à une certaine limite, bien entendu, puisqu'elle est synonyme de croissance économique.
Et pourquoi, lorsque l'on détient des avoirs et des contrats d'épargne, faut-il se préoccuper de ce phénomène économique ? En clair, est-ce si important ?
Comme je l'ai dit là tout à l'heure, quand l'inflation est élevée et qu'elle dure dans le temps, cela va provoquer une perte du pouvoir d'achat pour les consommateurs comme pour les épargnants. La différence, c'est certainement que les conséquences sont moins visibles. On l'a dit, plus sournoises pour les épargnants. Lorsque l'inflation progresse, les rendements de l'épargne dite sécurisée ont tendance à augmenter. Pas en raison de l'inflation, mais en raison de la hausse des taux d'intérêt qui accompagne l'inflation. Aussi, l'épargnant a l'impression que le rendement de son épargne progresse, ce qui est vrai lorsqu'on regarde uniquement le taux, mais ce qui est faux lorsqu'on regarde ce taux et qu'on le compare justement au niveau de l'inflation. C'est ce qu'on appelle le rendement net de l'inflation. Aussi, en matière d'inflation, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, mieux vaut une inflation modérée avec des taux d'intérêt qui le sont également, ce qui permet d'apporter un rendement net positif, plutôt qu'une forte inflation avec des taux d'apparence plus élevés, mais qui restent en fait inférieurs au taux de l'inflation lui-même. Ce qui génère au final un rendement net de l'inflation négatif pour l'épargnant qui va se positionner uniquement sur des placements sécurisés, bien sûr.
En cas d'inflation, quelle est la conduite à tenir, Michaël ? Agir rapidement sur ces contrats ou au contraire, ne pas s'en préoccuper ?
Alors en cas de forte inflation comme de tout autre événement non maîtrisé par l'épargnant, l'important est comme souvent de rester concentré sur ses objectifs à moyen, mais surtout à long terme. Ainsi, la proportion de placement qui a été définie à l'origine pour atteindre l'objectif doit être conservée indépendamment des actualités de court terme. En revanche, dans une période de forte inflation, mettre ses économies à l'abri signifie assurément une perte du pouvoir d'achat. Donc il ne faut surtout pas réagir dans la précipitation et il faut garder son sang-froid. C'est d'autant plus important que la performance se construit dans le temps en capitalisant les performances dans la durée.
Alors globalement, quels sont les placements les plus sensibles à l'inflation ?
Alors, d'une manière générale, tous les produits qui affichent un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt garanti, comme les livrets justement. Prenons par exemple le livret A, que tout le monde connaît. Avec l'inflation, son taux a été relevé pour atteindre 3% en février 2023. C'était bien mieux que les 0,5 d'il y a quelques années, bien entendu. Mais si l'inflation est à 6%, cela représente néanmoins une perte de 3%. 3% de rendement, 6% d'inflation, donc on est bien à 3% de taux de rendement net. A l'inverse, lorsque l'inflation est sur une tendance baissière, les pouvoirs publics ajustent le taux du livret A en suivant cette même tendance, ce que nous avons vécu en début d'année 2025. Par exemple, à fin 2024, l'inflation n'a progressé que de 1,8%. Résultat, justement, en février 2025, le taux du livret A est passé de 3 à 2,4%.
Et est-ce que l'inflation a des effets sur l'assurance vie ? Et si oui, dans quelle mesure ?
Alors, quand on parle d'assurance vie, on parle en fait d'un contrat qui permet de faire de nombreuses choses et qui propose de nombreuses solutions d'investissement. Comme vous le savez, vous pouvez investir en support en euros ainsi qu'en unités de compte en contrepartie d'un risque de perte en capital. Les supports en euros sont connus pour protéger le capital contre la perte, car ils vont majoritairement investir dans des obligations. Toutefois, même si l'épargne est garantie, l'érosion de la valeur du capital est inévitable en raison de l'inflation.
Et l'assurance vie permet vraiment de s'adapter à ce contexte ?
Tout à fait, l'assurance vie est une solution efficace pour justement contrer ce phénomène de l'inflation. En effet, comme vous le savez, vous pouvez investir en unité de compte et selon le support en unité de compte sélectionné, vous pouvez ainsi capter une partie des performances générées par les marchés financiers et ainsi atténuer les effets de l'inflation sur votre capital.
Alors nous venons d'aborder la question de l'inflation. Michael, si vous le voulez bien, je vous propose de continuer sur notre lancée, de nous intéresser maintenant à un autre phénomène économique connexe qu'est la désinflation. Alors, que se passe-t-il dans un contexte désinflationniste ? Vous pouvez là encore nous éclairer sur le sujet ?
Oui, c'est assez simple quand on vient de définir l'inflation, puisqu'on peut définir la désinflation comme un ralentissement de l'inflation. En clair, une réduction de la hausse des prix. À ne pas confondre malgré tout avec la déflation qui, elle, correspond à une baisse généralisée des prix.
Donc si je vous suis bien, on peut penser, au vu de cette définition, que la désinflation est finalement une bonne nouvelle.
Alors oui, effectivement, la désinflation peut être perçue comme une bonne nouvelle, et notamment par les consommateurs, puisqu'elle va leur permettre de recouvrer du pouvoir d'achat, ce qui peut stimuler la consommation et donc au final l'activité économique. En outre, la désinflation peut être interprétée comme un signe positif pour les investisseurs et les marchés financiers, car cela marque le retour à une certaine stabilité économique. Autre élément, les entreprises peuvent à nouveau se projeter et se remettre à investir. Bon, attention toutefois, hein, comme pour l'inflation, une désinflation trop forte peut être néfaste puisqu'elle peut conduire à la déflation. Avec une forte baisse des prix, les consommateurs deviennent alors généralement attentistes et reportent leurs achats dans l'espoir d'obtenir des prix encore plus bas dans le futur. Pour les entreprises, si l'activité et les prix baissent, elles peuvent rencontrer des difficultés à maintenir leurs marges ou à rembourser leurs investissements. On entre alors dans un cercle économique vicieux et non plus vertueux.
Et dans un contexte désinflationniste, alors maîtrisé, hein, j'entends, hein, y a-t-il des opportunités à saisir en matière d'investissement ?
Alors, la désinflation crée un contexte particulier qui nécessite une adaptation des stratégies d'investissement. Avec une stabilisation des taux d'intérêt, on observe que la désinflation est généralement favorable aux actions et aux obligations d'État, car elle offre une marge de progression pour les valorisations futures. En clair, la baisse de l'inflation amène les marchés à faire preuve de plus d'optimisme. Mais globalement, des opportunités sont certes à saisir. En pratique, ces événements vont peu affecter les épargnants puisque ce sont les professionnels de la gestion financière, comme les assureurs, qui prendront, si cela est nécessaire, des positions sur les marchés en fonction notamment des données économiques que l'on aura observées.
Plus globalement, comment peut-on, en tant qu'épargnant, se prémunir des conséquences négatives de ces événements économiques, souvent imprévisibles ?
Alors d'abord, c'est important, il ne faut pas s'imaginer pouvoir maîtriser ce qui est imprévisible. Par exemple, vouloir maîtriser la volatilité des marchés financiers est extrêmement difficile. En revanche, la diversification de ces placements est un excellent moyen pour ne pas trop subir les tendances de tous bords. Dans le cas de l'assurance vie, la diversification va consister à répartir ses investissements sur plusieurs supports financiers. Le support en euros d'un côté et les supports en unités de compte de l'autre, afin de réduire autant que possible les risques, mais aussi optimiser les rendements en allant capter une partie des performances sur les marchés financiers.
Et on peut vraiment diversifier avec des unités de compte ?
Globalement, les unités de compte sont investies sur des actifs très variés, principalement des actions et des obligations, qui vont représenter un univers d'investissement très large. Cette diversification permet de profiter des performances potentielles des différents marchés financiers, tout en diluant le risque lié à un seul type d'actif. En effet, en cas de baisse de l'un du support, les autres peuvent compenser cette perte, ce qui contribue à la stabilité globale du portefeuille. Il est important cependant de noter que les unités de compte ne garantissent pas le capital investi et que leur valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers. Il est donc crucial pour l'investisseur de bien définir son profil de risque et ses objectifs avant de choisir ses supports d'investissement. La diversification en unités de compte est une stratégie de gestion active qui nécessite un suivi régulier et des ajustements en fonction des conditions de marché et des objectifs personnels de l'investisseur. Ce suivi peut être fait en lien avec son conseiller financier.
Michael, un dernier conseil à donner à nos auditeurs ?
Oui, bien sûr, je leur conseillerais encore et toujours de garder leur sang-froid en période chahutée. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que les marchés financiers sont par nature volatiles et peuvent subir des fluctuations importantes à court terme. Réagir de façon impulsive au mouvement de marché peut conduire à des décisions hâtives, telles que vendre à perte ou acheter à des prix élevés, ce qui peut nuire à votre stratégie à moyen et long terme.
En d'autres termes, vous êtes en train de nous dire qu'il faut être patient.
Oui, il est crucial de se rappeler que l'investissement est une stratégie à long terme. Les périodes de turbulence peuvent offrir des opportunités d'achat et des prix attractifs pour ceux qui savent rester calmes et rationnels. De plus, une approche disciplinée basée sur des investissements réguliers dans la durée permet de traverser les phases de volatilité avec plus de sérénité. En gardant son sang-froid, l'investisseur peut éviter les pièges émotionnels et se concentrer sur ses objectifs à long terme. Il est également utile de se référer à un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés et donc adaptés à sa situation particulière.
En conclusion, la patience et la discipline sont des qualités indispensables pour naviguer avec succès dans les eaux parfois agitées des marchés financiers.
Très juste.
Voilà qui conclut notre épisode sur les bonnes pratiques d'investissement en assurance vie. Mickaël, merci pour votre éclairage sur le sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast. À bientôt.
À bientôt.
Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Eco Publishing pour MAF.
Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, en particulier dépendant de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent. Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances futures.